Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business. L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag. Erwan Morris.
Et bienvenue dans Happy Boulot, ravi de vous retrouver pour votre émission. Comme tous les week-ends, au programme aujourd'hui, la formation dans les secteurs en tension. Que faut-il mettre en place pour parvenir à attirer des candidats de plus en plus rares et qui manquent parfois de qualifications dans des secteurs pénuriques? C'est notamment le cas dans le service à la personne. Domitis, le numéro 1 des résidences de services seniors en France, développe la formation en interne. Son DRH, Pascal Guérinet, vient nous en parler dans l'entretien de la semaine. Mais pourquoi donc les candidats s'auto-censurent-ils? Est-ce que les recruteurs en demandent trop dans leurs annonces? Est-ce qu'aujourd'hui, tenez, il faut aussi mentir dans son CV pour réussir à décrocher un poste? Vous verrez que les résultats du sondage que nous allons vous présenter dans un instant sont assez surprenants. Ce sera notre sujet de la semaine. Et puis, en fin d'émission, le labo RH, nous parlerons de la prévention santé dans les entreprises. Car oui, ça fait aussi partie de leur responsabilité. Nous serons avec Christine Hanon, présidente fondatrice de My Life Care. Voilà le programme.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'entretien DRH.
Et d'abord donc notre entretien de la semaine sur un sujet qui devient récurrent décidément, c'est celui des pénuries avec des recrutements qui sont de plus en plus compliqués dans certains secteurs qui n'ont plus d'autre choix que tout simplement de prendre les choses en main. Bonjour Pascal Guérinet.
Bonjour Erwan.
Merci d'être sur le plateau de BFM Business, vous êtes le DRH du groupe Domitis.
Oui.
On rappelle ce que c'est, Domitis numéro 1 des résidences services seniors en France, 4000 collaborateurs au total, 400 recrutements rien que l'an dernier,
oui.
9 recrutements sur 10 se font en CDI, et vous cherchez encore 500 nouveaux profils cette année.
Encore et toujours, oui, effectivement, on a une croissance extrêmement importante, puisque on ouvre en moyenne une résidence tous les 15 jours. Donc une résidence, c'est 25 emplois, c'est à peu près 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, et donc on s'installe dans tout le territoire français, avec une croissance qui est effectivement extrêmement puissante.
Il y a un effet rattrapage avec la période sanitaire compliquée qu'on a traversée. Il y a des projets qui ont été mis sur pause et que vous réenclenchez?
Oui, comme une partie des secteurs, notamment dans le domaine de la construction.
Bien sûr.
Néanmoins, on a peut-être été moins impacté que d'autres. Mmh. Et puis surtout, on surfe sur l'effet démographique des prochaines années, puisque je rappelle qu'on on a à peu près 6 millions, un peu plus de 6 millions de personnes qui ont plus de 75 ans. C'est le double d'ici 25 ans. Donc, voyez un peu la croissance qu'il peut y avoir et les besoins que ça peut générer.
Et il faut trouver aussi les profils qui correspondent aux besoins, aux attentes que vous avez. On voit que ça recrute. On le disait, 500 nouveaux profils que vous recherchez, que vous recrutez cette année. Vous arrivez à trouver les candidats qu'il vous faut?
Oui. Pour plusieurs raisons, déjà, on est dans des emplois de proximité, donc au plus près en fait de nos résidences qui sont dans les centres-villes. Nous avons cette chance de prévoir aussi les dates d'ouverture, ce qui permet d'anticiper aussi nos besoins. Et puis après, il y a tout ce travail de proximité qui est mené notamment par les managements de façon à pouvoir accueillir tous les profils qui correspondent à nos besoins.
Mmh. On entend beaucoup quand même que dans votre secteur, l'aide à la personne, notamment, on a fait une émission là-dessus il y a quelques semaines. C'est difficile de trouver les bons candidats, les bons profils là, les 500 profils que vous avez ouverts. Vous allez atteindre cet objectif, vous pensez?
Oui. Ouais. Après, si vous voulez, nous, on a cette caractéristique, c'est d'être au carrefour des métiers de la restauration, de l'hôtellerie, du service à la personne, avec une forte dimension d'animation, et donc dans des environnements extrêmement humains. Donc notre point d'attention porte sur le savoir-être, qui est extrêmement important. Et après, notre travail, c'est de pouvoir accompagner ces personnes dans leur savoir-faire. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle on a développé un organisme de formation interne en créant une filiale qui s'appelle Domitis Campus.
Parlons-en justement, cette formation que vous développez en interne, ça part d'où? Ça doit répondre à quel besoin?
Alors ça part déjà d'un investissement économique important, c'est à peu près 3-3,5% de notre masse salariale qui est consacrée à la formation. C'est de pouvoir proposer 35 modules de formation différents dans tous les domaines de nos métiers, immobilier mais aussi le service, et aussi cette capacité à créer du lien avec nos résidents, c'est-à-dire d'évoluer avec les seniors. Et donc à ce titre-là, on a accueilli à peu près 2500 stagiaires l'année dernière pour pouvoir justement augmenter en compétences nos équipes de façon à ce qu'ils puissent aussi monter en responsabilité.
Pascal Guérinet, quand on crée une structure dédiée à la formation dans son entreprise, c'est qu'on a besoin de former à des compétences que les candidats n'ont pas quand on les recrute.
Oui, ou en tout cas les accompagner dans leur prise de responsabilité. Nous sommes dans des métiers, finalement c'est un métier neuf, même si on évolue au sein des seniors. C'est un métier qui a à peu près 20-25 ans d'existence. Et il n'y a pas de formation académique qui conduit en fait à ces métiers-là.
Donc, c'est un problème.
Alors c'est un problème, en tout cas c'est aussi une manière de pouvoir adapter les formations par rapport à nos besoins. On travaille bien sûr avec des organismes qui sont plutôt dans le domaine de l'hôtellerie, dans la restauration, et ça fait partie en tout cas des axes qu'on souhaite développer par la suite, de former des personnes, voire des personnes issues d'autres acteurs du secteur à nos métiers.
Donc ça veut dire que ça va être, on parle là de formations très spécifiques qui vont répondre à des besoins très pratiques et très concrets que vous avez à court terme pour votre entreprise.
Alors à court et moyen terme, en sachant que les besoins peuvent évoluer puisque les services évoluent, et qu'à ce titre-là, effectivement, notre mobilisation, c'est de pouvoir accompagner au mieux nos équipes dans leur savoir-faire.
Ça représente quel coût pour Domitis de former ces nouveaux collaborateurs?
Ah, écoutez, en termes de coûts, on doit être autour de 4,5 millions à 5 millions d'euros d'investissement.
Par an ?
Par an,
ouais. Donc c'est un gros investissement, ouais. Mais vous arrivez à rentabiliser, disons, ces montants que vous investissez derrière avec ce que ça apporte aussi pour l'entreprise.
Alors on le rentabilise par le niveau de satisfaction de nos résidents, en tout cas c'est un indicateur de mesure. Dernière enquête, c'est 97% de taux de satisfaction de nos résidents, donc on va considérer que cet investissement-là se traduit aussi par tout l'engagement et la qualité de la relation humaine que mettent les équipes dans cette relation-là.
On a beaucoup parlé de la formation ces derniers mois, notamment à travers l'apprentissage qui a été beaucoup favorisé. C'est devenu un incontournable aujourd'hui, le fait d'être bien formé, de former aussi après avoir recruté les candidats, et puis de prendre des apprentis.
C'est une manière de créer ce qu'on appelle un vivier, donc de pouvoir préparer des jeunes et des moins jeunes à nos métiers. Aujourd'hui, on a à peu près une cinquantaine de d'apprentis, ce qui est insuffisant. Donc ça fait partie en tout cas des axes de développement. Et au sein de l'organisme Domitis Campus, on souhaite le transformer en organisme de formation pour les apprentis, de façon justement à multiplier quasiment par 3 le nombre d'apprentis dans les toutes prochaines années.
Et il manque quoi alors pour en arriver là? Il va falloir une espèce d'accréditation, il va falloir une certification?
Alors, il y a besoin d'avoir en fait des partenariats avec des écoles qui puissent nous connaître, nous connaître nos métiers,
vous
connaître
êtes
nos besoins.
En France.
Oui, mais on est connu, mais en tout cas, on a besoin de mieux faire connaître nos métiers, qui sont, je le rappelle, des métiers non médicalisés. Donc nous, on est dans le secteur du service.
C'est pas l'EHPAD.
Et on aide les personnes à maintenir au maximum leur indépendance et leur autonomie. C'est en tout cas le pari qu'on fait avec eux.
Merci beaucoup d'être venu nous voir.
Accueil.
Avec plaisir. Merci Pascal Guérinet, DRH du groupe Domitis.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le sujet sur la table.
Et on passe à toute autre chose désormais. Avec cette question, pourquoi les candidats s'auto-censurent-ils autant? Jeanne Spicarolen nous rejoint, journaliste BFM Business. Jeanne, vous avez compilé les données d'un sondage à ce sujet. Qu'est-ce qui en ressort?
Ce qui en ressort, c'est que les candidats français sont pour l'écrasante majorité intimidés par les offres, au point de ne pas postuler. Cela concerne 91% d'entre eux, selon une étude récente de l'Opinion Way pour Indeed, la plateforme de recherche d'emploi. Et 74% d'entre eux n'osent pas postuler lorsqu'ils ne cochent pas toutes les cases de l'annonce de l'emploi et donc s'auto-censurent.
Mais si la majorité des candidats s'auto-censurent, c'est aussi que beaucoup de recruteurs sont intransigeants sur la question des compétences.
Oui, tout à fait. 7 recruteurs sur 10 veulent des candidats qui cochent toutes les cases et 90% des chercheurs d'emploi pensent la même chose.
Mais alors Jeanne, est-ce que recruter un candidat qui n'a pas toutes les compétences requises aboutit nécessairement à un échec ?
Non, pas nécessairement, comme le montre ce chiffre. 60% des recruteurs pensent qu'avoir fait des concessions sur les profils des candidats ont eu des conséquences positives. Les entreprises sont donc prêtes à s'ouvrir à des profils plus larges.
Merci Jeanne. Pour aller plus loin, j'accueille sans plus tarder nos invités. Laurent Blanchard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la tête de Page Personnel du cabinet de conseil en recrutement Page Group. Et puis Alexandre Pham, bonjour, président de l'entreprise d'intérim Mr. Temp.
Bonjour.
Première question, les chiffres là qu'on vient d'exposer rapidement, ils vous étonnent, cette auto-censure qui existe très largement de la part des candidats ?
Ils ne sont pas surprenants ces chiffres. Hein. C'est une réalité effectivement qu'on côtoie au quotidien où les gens n'osent pas effectivement postuler quand ils ne cochent pas toutes les cases parce qu'ils ont peur de se voir refuser des offres. Chercher un boulot, c'est un emploi et qui peut être un peu usant au quotidien. Et c'est bien dommage. Alors, et heureusement, c'est mon côté optimiste, les choses changent. D'abord parce qu'on est tous confrontés en ce moment à des difficultés de recherche de candidats. Donc les entreprises, de gré ou de force, sont obligées de s'ouvrir à des candidats qui sortent un peu des sentiers battus. Ça, et c'est une bonne nouvelle.
Vous le constatez ?
On le constate aujourd'hui parce que sur toutes les demandes de recrutement qu'on reçoit, il y a une grande partie de ces demandes-là pour lesquelles on ne trouve pas le profil idéal. C'est une réalité aujourd'hui, et je dirais quel que soit le niveau de qualification ou la géographie sur lequel on se situe aujourd'hui, et on est bien obligé, et c'est le travail qu'on a d'ailleurs en tant que recruteur, de réussir à identifier dans la liste, on va dire, des 14 prérequis énoncés par l'entreprise, quels sont parmi les 14, quels sont les 3-4 qui sont vraiment indispensables, desquels sont en fait plutôt accessoires. Donc c'est des exercices assez intéressants qu'on mène régulièrement.
Alexandre.
Merci.
Laurent Blanchard, pardon.
Merci. Chez Michael Page, dont je suis directeur général, mais on fait exactement le même constat. Vos chiffres sont assez éloquents. Ils sont impressionnants. C'est vrai qu'on s'appuie, nous, sur une autre étude récente qui a été produite par le M Normandie, Jean Pralon, et qui montre qu'effectivement, il y a au moins la moitié des candidats qui hésitent et qui s'auto-censurent au moment de postuler. Donc c'est une réalité indiscutable. Et finalement, qui s'appuie sur des ressorts, comme vous l'évoquiez Alexandre, sur des ressorts psychologiques. Postuler, c'est tenter, c'est oser, c'est comme dans la vie. Et donc, c'est prendre le risque d'avoir un non. Et ce sont souvent des candidats qui, pour éviter une émotion négative, préfèrent ne pas avancer. Donc, j'abonde complètement dans le sens que vous évoquez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la démarche et la tendance inverse, elle vient des recruteurs. On était sur un taux de chômage à plus de 10% il y a encore quelques années. Désormais, sur les profils qualifiés qu'on travaille chez Michael Page, on est entre 4 et 5% de taux de chômage. Et sur plein d'autres profils. Donc le rapport de force s'est inversé. Et là où les recruteurs, il y a quelques années, pouvaient se montrer intransigeants, aujourd'hui c'est la démarche inverse. Il faut aller convaincre des candidats qui ne se reconnaissent pas dans une annonce parce qu'ils pensent ne pas correspondre à 100% des critères, de venir quand même nous rejoindre, même si, pour eux, ils n'ont pas le profil idéal.
Ce qui veut dire qu'il y a un travail supplémentaire à faire de la part des bureaux de recrutement.
Et exactement, en fait, il y a les candidats qui décident eux-mêmes de ne pas postuler, mais aujourd'hui, quand on veut un candidat en entreprise, il ne faut pas attendre qu'il postule, il faut aller le chercher. Et la première démarche qu'on doit faire souvent, c'est de le convaincre de venir postuler, et quelquefois, de lui dire, mais si vous avez les compétences requises, vous n'avez pas 100% des compétences requises, mais 3 sur 5, ça suffit pour avancer.
C'est vrai aussi dans l'intérim.
Alors c'est vrai aussi dans l'intérim, hein. Faut pas croire que finalement l'intérim c'est un petit peu la cinquième roue du carrosse. Au contraire, aujourd'hui de plus en plus de personnes qui choisissent l'intérim, donc c'est des gens qui concrètement refusent des offres en CDI, voire même qui démissionnent de postes en CDI pour devenir intérimaire. Le meilleur exemple d'ailleurs c'est le secteur de la santé. On parle beaucoup aujourd'hui des pénuries de profils infirmiers ou aides-soignants. On a des gens effectivement qui démissionnent même de poste en tant qu'infirmier pour devenir intérimaire, bien souvent pour des raisons d'ailleurs de liberté que des questions de rémunération aujourd'hui. Mais pour revenir à ce que vous disiez, c'est ça que c'est très vrai hein, aujourd'hui sur l'importance pour un recruteur d'avoir identifié quels sont les vrais besoins effectivement du client. Juste une petite anecdote hein, le mois dernier j'étais en rendez-vous chez un client qui souhaitait avoir un profil de comptable bilingue. Et comme toujours, on a la liste, la liste à la Prévert, hein. Il faut quelqu'un qui soit bilingue anglais, 10 ans d'expérience, comptable, il connaît tous les logiciels, etc. Bon, des clients, vous ne voulez pas trouver le profil. Ah non, j'ai pas trouvé. Ouais, on va comprendre un peu mieux là dans cette liste-là. Bac plus 5 obligatoire comptabilité, très bien. Ah, écoutez, j'ai quelques profils avec moi de CV qu'on sort et qu'on montre pour dire, écoutez, voilà, j'ai quelques profils, ils ne correspondent pas exactement à ça, mais juste voir comment vous réagissez par rapport à ces profils-là. Et on voit de façon assez étonnante, hein, le recruteur qui, deux minutes avant, on disait mordicus, quelqu'un qui soit bilingue anglais. Ouais. Il voit un profil là, anglais uniquement écrit, mais un bon profil par ailleurs, qui n'est pas bac plus 5 et bac plus 3. Il va dire, bah, finalement, ce profil il est pas mal, ouais, ça m'irait bien. Ouais. Et c'est intéressant ce type de test de vérité par l'expérience, où au-delà des compétences, je dirais, exprimées dans une description de poste typique, on voit que la réalité du terrain peut s'intéresser à des profils un peu différents.
Laurent Blanchard, d'accord avec ça, il faut revoir aussi dans la première mouture les ambitions de l'entreprise à la baisse et s'autoriser à rencontrer plus de candidats peut-être.
La plus-value d'un recruteur et d'un consultant recrutement, c'est exactement ce que décrivait Alexandre, c'est d'aller dire qu'est-ce qui est strictement indispensable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc bien évidemment, c'est quelque chose de fondamental quand on veut avancer aujourd'hui. Les choses ont vraiment changé, il y a beaucoup d'employeurs aujourd'hui, de grandes sociétés industrielles qui sont engagées d'abord dans un plan de staffing qu'elles ont du mal à pourvoir, elles ont du mal à aller au bout, et puis dans une féminisation de certains postes dans le monde industriel par exemple, et qui nous disent, à contrario, si j'ai une femme qui candidate parce que j'ai peu de femmes en directeur d'usine, en directrice des risques industriels, etc., je suis prêt aussi à me montrer plus souple parce que j'ai d'autres objectifs et donc c'est à nous finalement de restituer cette souplesse croissante auprès des candidats.
Oui, parce que le risque aussi, on va voir ça tout de suite, mais d'avoir des exigences trop fortes, c'est d'attirer des menteurs. Et il y a ce chiffre qui est assez intéressant, 3 candidats sur 10 ont déjà menti sur leur CV et un recruteur sur 2 assure que si ces candidats-là sont convaincants, eh bien ils ont toutes leurs chances. Moi, c'est quand même un chiffre qui m'a surpris. C'est-à-dire qu'on peut mentir aujourd'hui, c'est pas un défaut. En gros, c'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je vous laisse libre de votre interprétation. Je pense pas qu'il faille mentir dans un processus de recrutement. Je pense que encore aujourd'hui, tant les employés que les employeurs, ce qu'ils recherchent, c'est quand même une relation de confiance et du succès dans la durée. Et je doute que le mensonge soit le bon socle pour construire cette relation de confiance dans la durée.
Mais on a quand même un recruteur sur deux qui nous dit pourquoi pas. Si derrière, en fait, on rencontre le candidat et qu'il a des choses intéressantes à nous dire, peu importe s'il a menti, on sera intéressé de l'entendre. Ce qui veut dire que oui, ça va dans le sens de ce que vous disiez. Je trouve que il faut se laisser une ouverture d'esprit pour rencontrer des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés spontanément.
C'est une tentation qui Alexandre est forte, femme, oui. Tentation qui est forte, mais qui est fortement déconseillée. Parce que c'est presque inutile aujourd'hui. Je pense que les gens qui croient que c'est en mettant telle expérience supplémentaire ou tel diplôme supplémentaire sur un CV, c'est ça qui fera la différence, ces gens-là se trompent. Et à l'inverse, et ça on le voit régulièrement, lorsqu'on arrive à déceler un mensonge au travers d'un contrôle de référence, voire même on l'a vécu régulièrement, des gens qui mentent ou des diplômes, et lorsqu'on fait correctement le travail, on arrive à déceler ça finalement assez vite, c'est désastreux dans la relation de confiance que peut avoir le recruteur et le candidat, et à forcer encore plus le recruteur futur, l'entreprise, avec le candidat. J'ai que c'est généralement inutile je déconseille fortement à toute entreprise, effectivement, ou tout candidat en tout cas, de reproduire cela. C'est tentant, évidemment, c'est lorsqu'on recrute de dire, bah tiens, finalement, est-ce qu'on est prêt à gommer tel absent de compétences ? Oui. En revanche, s'asseoir sur des valeurs qui me paraissent essentielles de confiance dans la collaboration, pour le coup, on déconseille l'entreprise de s'asseoir là-dessus.
Par ailleurs, pardon, mais on se met à la place du candidat qui scrolle toute la journée sur des annonces en se disant, mais en fait, il n'y a rien qui correspond, on en demande trop. Donc je vais peut-être rajouter une ou deux lignes en disant, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et ça va me permettre de franchir cette première étape.
Mais d'où l'intérêt de votre émission d'aujourd'hui, parce que finalement, ce qu'elle met en lumière, c'est quoi ? C'est qu'il n'est pas nécessaire de couvrir 100% des points, des critères de sélection requis ou communiqués dans
la Donc le changement doit venir du recruteur.
Le changement doit venir d'une prise de conscience. Ouais. Les recruteurs, ils sont depuis 2 ans dans ce changement. En fait, ils y sont même malgré eux, encore une fois, parce que le plus difficile aujourd'hui pour une entreprise qui veut se développer, quand on interroge les chefs d'entreprise, c'est d'avoir les équipes qui permettent ce développement. Donc l'entreprise veut recruter. Le changement de mindset aujourd'hui, il est inversé, il est quasiment plutôt chez les candidats qu'ils osent postuler même quand ils ne répondent pas. Et comme le disait Alexandre, il vaut mieux dire qu'il y a une compétence, une expertise qu'on ne maîtrise pas, mais qu'on a envie de l'acquérir. Voilà.
D'ailleurs, souvent, nous, on invite souvent, lorsqu'on aide, on sent qu'une entreprise a des doutes sur un candidat. Ah, il n'a pas telle expérience. On n'a pas beaucoup des doutes sur des candidats seniors. On parle beaucoup de l'emploi des seniors aujourd'hui. Il y a, c'est vrai que lorsqu'on s'agit d'embaucher un senior, parfois, certaines entreprises qui déclenchent tout un tas d'a priori. Est-ce qu'il va réussir à s'intégrer? Est-ce qu'il va accepter de reporter un manager plus jeune que lui, par exemple? Et c'est vrai que pouvoir offrir la possibilité de l'intérim en disant, écoutez, pas de problème si vous avez des doutes là-dessus, prenez-le en mission intérim pendant 2, 3, 6 mois et vous verrez bien. Et très généralement, on a d'excellentes surprises. Où l'on se rend compte que finalement, il n'avait pas telle compétence, il est acquise, où ça se passe très bien.
On va conclure, mais rapidement, peut-être Laurent Blanchard, puisque vous êtes aussi à la tête d'un cabinet de recrutement international, est-ce que vous diriez que ce réflexe d'autocensure, c'est typiquement français ?
Non, il n'est pas typiquement français. On l'observe aussi dans les autres pays. On est présent dans 36 pays. Alors la France est le plus gros, mais on est présent dans 36 pays et c'est quelque chose qui est assez généralisé. Ce qu'on voit véritablement et qui est une tendance de fond aujourd'hui, c'est des entreprises de plus en plus souples, de plus en plus flexibles dans leurs attentes. Et puis, il nous revient à nous, en tant que consultant en recrutement, d'aller provoquer une prise de conscience chez les candidats, chez nos clients.
Le mot de la fin, Laurent Blanchard, Alexandre Femme, les bonnes pratiques à mettre en place dans les recrutements pour éviter l'autocensure, en un ou deux mots?
Moi, je dirais oser. Ça, c'est le message qu'on doit envoyer vers les candidats. Et puis, oser également faire des paris, c'est le message qu'on veut envoyer vers nos clients employeurs.
Bah, écoutez, également oser, parce qu'effectivement, il n'y a rien à perdre à postuler. C'est vrai que et aujourd'hui, on peut être embauché dans un job vachement intéressant, même si on n'a pas sur le papier les diplômes requis ou l'expérience prérequise.
Merci beaucoup pour toutes ces analyses, ces explications. Alexandre Femme avec nous, président de l'entreprise d'intérim Mr Temp, et Laurent Blanchard, vous êtes à la tête de directeur général
de Michael Page.
De Michael Page en France.
Merci.
Merci.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le Labo RH.
Et focus dans les minutes qui nous restent sur la prévention santé dans les entreprises avec notre invitée Christine Anon. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente fondatrice de My Life Care, une solution de diagnostic et de suivi personnalisé dédié à la santé des salariés. Alors, de quelle manière, peut-être pour commencer, comment ça marche?
D'accord. D'abord, merci pour votre invitation. D'abord, ça veut dire quoi les mots My Life Care? C'est prendre soin de soi, de sa santé et de sa vie. Notre mission, c'est d'aider les salariés à rester en bonne santé le plus longtemps que possible par la gestion de leur capital santé. Qu'est-ce que c'est le capital santé? Nous avons tous un capital santé, comme un capital financier, et il faut le gérer, il faut l'optimiser dans le temps. Et dès le plus jeune âge, car c'est essentiel, aujourd'hui, nous vivons plus longtemps, jusqu'à 82 ans en moyenne, mais l'espérance de vie en bonne santé n'est que de 66 ans. Il y a 16 ans d'écart, et on peut réduire cet écart.
Et donc, votre solution, qu'est-ce qu'elle fournit aux salariés que vous visez?
Ouais. Alors, donc pour les entreprises, d'abord, vous savez quelle est la première préoccupation des salariés aujourd'hui, à part un salaire confortable?
Leur santé.
C'est leur santé et leur bien-être.
Ouais.
Voilà. Et en réponse à cela, nous proposons aux salariés de les aider à gérer leur capital santé par justement trois axes forts. D'abord, déclencher une prise de conscience de l'importance de gérer sa santé et aussi leur donner des outils comme le suivi de l'âge physiologique qui a une approche unique en France que nous maintenant. Deuxième chose, c'est les aider à avoir une meilleure forme physique et mentale, mieux gérer le stress.
Donc
qui
tout
est
ça, ça va être possible avec My Life Care.
Exactement.
De quelle manière?
Alors, de quelle manière?
Des exercices
C'est d'abord, My Life Care a été créé en collaboration avec un médecin, donc Dr Christophe de Gégère, qui est spécialiste depuis 30 ans dans les recherches de vieillissement et la prévention humaine. Et donc, il a mis au point une méthodologie qui permet d'optimiser notre âge physiologique pour rester en bonne santé. Alors, vous savez, vous avez deux âges. un âge chronologique et un âge physiologique. Mm-hmm. Votre âge chronologique, c'est sur votre acte de naissance. L'âge physiologique, c'est l'âge réel de votre corps. C'est sa vitesse de vieillissement et c'est un indicateur de bonne santé d'un individu. Mm. Ah, donc, ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons mesurer avec précision, objectivement, cet âge physiologique. Mm-hmm. Et contrairement à l'âge chronologique, nous pouvons l'inverser et pour aider la personne à rester en bonne santé. Et donc, cet accompagnement que nous faisons par un bilan 360, par un programme individualisé, personnalisé, et aussi un suivi par coaching qui permet à la personne de gérer leur capacité de santé chaque année.
Est-ce que vous diriez que vous êtes une espèce de petit supplément numérique à la médecine du travail? C'est une aide supplémentaire?
Pas du tout.
Non. Non,
nous sommes vraiment une solution pour le 21e siècle. On est vraiment dans la santé de demain. On est dans la santé de précision, personnalisée, avec à la fois une approche humaine et aussi une approche digitale. Donc c'est justement l'intérêt de la solution, c'est que nous mettons ensemble les deux de la médecine, du coaching santé avec des personnes et aussi une application digitale
qui permet. Et ça prend combien d'utilisateurs aujourd'hui ?
Aujourd'hui, nous lançons.
Donc
la société,
vous êtes en
on
démarrage.
Est en plein lancement. Oui. Ouais, ouais. Alors nous avons déjà.
Avec quels objectifs ?
Avec les objectifs d'ici 2030, une dizaine de centres. Donc nous avons déjà un centre dans le 16e arrondissement aujourd'hui. Donc tout est opérationnel. Nous pouvons accueillir demain nos premiers clients.
Et donc ça marche comment ? C'est l'entreprise qui finance ça, dans laquelle le salarié va travailler ?
C'est ça. Ouais. C'est
donc il faut que les entreprises signent un partenariat avec vous et à partir de là, les salariés vont pouvoir aller dans vos centres.
Alors, ce qui faut noter aussi, c'est que Harmonie Mutuelle, la première mutuelle santé en France, a testé et validé notre concept. Et donc, ils ont décidé de proposer notre solution à leurs clientes entreprises, parce qu'ils trouvent ça très pertinente. Donc, c'est notre premier partenariat qui est très intéressant et qui montre le sérieux de notre solution.
Merci d'être venu nous présenter ça, cette solution dans le Labo RH. Merci Christine Anon.
Merci.
Présidente fondatrice de My Life Care. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez Happy Boulot en replay, en podcast. Et puis cette émission, c'est la vôtre, bien sûr. Ce qui nous intéresse, c'est votre vie au travail. Un sujet qui vous concerne, vous intéresse. Vous nous écrivez une seule adresse avec vous @bfmbusiness.fr. Et d'ici là, bien sûr, on vous souhaite d'être heureux au boulot.
BFM Business. Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.